Voici une question dont la réponse pourrait faire toute une différence dans votre vie. Puisque Dieu a le péché en horreur, comment un pécheur peut-il avoir accès à lui? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui démontre à quel point Dieu nous aime. Aujourd'hui, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois sincèrement qu'on va voir combien Dieu nous aime quand on va entendre les réponses à nos questions d'aujourd'hui. Je souhaite que nos questions soient aussi vos questions. Les voici. Est-il possible de pécher par la pensée? Dieu prend-il nos péchés secrets à la légère? Que veut dire la Bible quand elle parle d'un péché qui mène à la mort? Qu'est-ce que la fête des expiations illustre dans le livre du Lévitique? Est-ce que Christ ôte réellement les péchés du monde? Comment un pécheur peut-il avoir accès à Dieu? Est-ce que Jésus a délaissé sa nature divine quand il a porté nos péchés à la croix? De quelle manière devons-nous nous approcher de Dieu? Restez avec nous. Dieu va de nouveau nous démontrer son amour par les réponses qu'il a inspirées au pasteur Régent Joly, lesquelles proviennent toutes des Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Oui, on veut te prier, Seigneur. On veut te demander de venir nous enseigner personnellement dans chacun de nos cœurs par ce bel enseignement que tu vas donner par la bouche de ton serviteur. Viens nous rejoindre, Seigneur. Fais-nous goûter à ta présence aussi pendant cet enseignement. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous sommes au chapitre 15 du livre du Lévitique. Et il traite des écoulements de sang et de pus. Les écoulements sont dégoûtants aux yeux de bien des personnes, et ce langage frappant démontre la corruption profonde de notre nature humaine. Maintenant, chers amis, lisons à partir du verset 16. Lévitique 15, verset 16 à 18. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. Ce texte fait référence à des maladies transmises sexuellement. Ces maladies sont très répandues de nos jours. Par ces lois, Dieu protégeait les Israélites car il s'intéressait à la procréation de l'humanité. Dieu a donné la sexualité à l'humanité pour son bien et son inspiration, mais il faut en faire un bon usage et la protéger. L'homme est porté à se souiller et à s'abaisser avec ce qui devait être une expérience noble. Le Seigneur nous a enseigné qu'il faut éviter de se laisser aller à des pensées charnelles. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Ceci nous rappelle qu'un homme ne peut que produire des enfants pécheurs et qu'il est totalement incapable de produire un être sans péché. Tous les enfants naissent avec des natures pécheresses. David reconnaissait ce fait. Voici. « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le psaume 51. Maintenant, chers amis, j'aimerais conclure l'étude de ce chapitre avec les versets 31 à 33. Nous allons y voir l'aspect repoussant des flux de la chair, ainsi qu'un dernier règlement à leur sujet. Lévitique 15, versets 31 à 33. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution. pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. De toute évidence, les derniers versets de ce chapitre traitent surtout du péché à caractère sexuel. Les versets font allusion aux maladies transmises sexuellement, et la mort était la conséquence pour ceux qui ne respectaient pas les règlements de Dieu. Dieu ne prend pas à la légère nos péchés secrets. De plus, nous ne pouvons pas les lui cacher, même si nous pouvons les cacher aux autres. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Nous appartenons à Dieu, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'abus de ce temple peut être un péché qui mène à la mort. En effet, il y a un péché qui mène à la mort. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Ce verset réfère à la mort physique, non à la perdition éternelle ou à la mort spirituelle. Il est possible que Dieu décide de rappeler un croyant qui pêche gravement. Nous ne pouvons pas savoir quel est ce péché, mais rappelons-nous que Dieu peut juger ses enfants lorsque cela est nécessaire. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui meurent sont jugés par Dieu. Cependant, si un enfant de Dieu persiste dans la désobéissance, Dieu peut l'appeler à lui. C'est cela le péché qui mène à la mort. La désobéissance peut être provoquée par un péché secret. Une mère peut avertir son garçon de ne pas se battre avec le voisin de son âge. Elle lui dit que s'ils ne peuvent pas jouer sans se battre, il doit revenir à la maison. Son garçon sort dehors et peu de temps après, elle le voit se battre et l'avertit de ne pas recommencer. Un peu plus tard, elle le voit de nouveau se battre. Cette fois, elle l'oblige à rentrer. Dieu exerce de la discipline, chers amis. Si un chrétien détruit son témoignage ou ternit le nom de Christ par sa conduite, Dieu donne des avertissements. Cependant, s'il persiste dans son péché, Dieu peut le faire entrer à la maison. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Un enfant de Dieu doit reconnaître cela, et il doit confesser son péché. Il peut avoir des péchés secrets dans son cœur qu'il ne confessera pas. Si Dieu décide de le rappeler, ne blâmons pas Dieu. La faute revient à l'individu, à celui qui cache ses transgressions. Nous vivons dans un âge où la sexualité est devenue une idole. La publicité, les médias et de nombreuses célébrités affirment que si ça va bien du côté sexuel, alors nous serons bien dans notre peau et nous serons des gens heureux. Le péché sexuel prédomine et la venue de l'Internet n'aide pas les choses. Les maladies transmises sexuellement sont très répandues malgré notre science médicale et les mesures d'éducation et de prévention. Je suis presque soulagé de terminer ce chapitre qui dépeint toute l'horreur du péché en général. Nous faisons partie de cette famille humaine déchue. Maintenant, nous allons passer au chapitre 16 et nous aurons l'impression de passer des ténèbres à la lumière. Nous sortons d'un tunnel pour nous retrouver à la lumière du jour, du grand jour. C'est dans ce chapitre que nous retrouvons la plus belle de toutes les leçons spirituelles. Jusqu'ici, dans Lévitique, nous avons parlé d'offrande, de sacerdoce et de péché. Aucun de ces éléments ne nous a permis de régler entièrement la question du péché. Nous sommes maintenant rendus au chapitre qui en traitera complètement, car son sujet illustre spécifiquement l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est une ombre, une image de son œuvre rédemptrice. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. L'ombre d'une chose est une image de celle-ci. Même si une image est un pauvre substitut de l'objet ou de la personne, elle décrit la réalité. Nous avons parfois tendance à négliger l'étude des images et des symboles de la loi mosaïque. Cependant, la fête des expiations est une image qui mérite une attention particulière. La fête des expiations était la plus importante de la loi mosaïque, et elle illustre, plus que toute autre fête, l'œuvre de Christ à la croix. Pour les Israélites, cette fête était le jour. C'est ce jour-là que la question du péché était réglée plus profondément que toute autre cérémonie de la loi mosaïque. Notez le verset 16 de ce chapitre, 16e chapitre du Lévitique. « À cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. » Plus loin, au verset 22, nous lisons « Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. » Finalement, le verset 21 « Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. » Le souverain sacrificateur fera l'expiation de toutes leurs transgressions et de tous leurs péchés. La loi ne pouvait pas faire davantage pour le peuple avant la venue de Jésus-Christ. Certaines instructions et certaines restrictions concernant ce jour furent établies à la suite de la rébellion et de la désobéissance de Nadab et d'Abihu, les fils d'Aaron, alors qu'ils ont pénétré dans le lieu très saint du tabernacle. Dieu les a immédiatement fait mourir. Cet événement fut raconté au chapitre 10, et certains auteurs traitent de ce chapitre avec celui-ci. La fête des expiations était observée le 10e jour du 7e mois. Ces deux nombres sont chargés de symboles. Le 7e mois est le mois sabbatique, et il représente le repos et une pause dans le travail. Ce n'est sûrement pas par erreur que ce mois fut choisi pour représenter le repos que nous apporte l'œuvre rédemptrice de Christ. Un repos spirituel. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux, chapitre 4, verset 10. Le nombre 10 est aussi important dans la Bible. Il représente la volonté complète et les voies complètes de Dieu. Dieu a donné 10 commandements. Il aurait pu facilement en ajouter un autre, mais il ne l'a pas fait. Dieu a demandé que le peuple paie la dîme. Le reste d'Israël était composé d'un dixième de la population. Ésaïe chapitre 6, verset 13. Le nombre 10 représente la pensée et le but de Dieu. Le 10e jour exprime l'idée que Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Il a plu à Dieu de le blesser et de le briser. Il lui a fait éprouver des douleurs. Il vint au temps choisi par Dieu lorsque les temps furent accomplis. Le mot hébreu traduit « expiation » est « kafar », dont la racine veut dire « couvrir ». Dieu n'ôtait pas les péchés dans l'Ancien Testament. Il les couvrait jusqu'à ce que Christ vienne les ôter. De nombreux versets indiquent cela. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Actes chapitre 17, verset 30. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Romains chapitre 3, versets 24 et 25. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux chapitre 9, verset 15. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Hébreux, chapitre 9, versets 8 et 9. La fête des expiations symbolisait Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice mieux que tous les autres sacrifices, cérémonies et rituels de l'Ancien Testament. Elle montre Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui pénètre pour nous dans le lieu très saint. Chers amis, débutons notre lecture. Lévitique chapitre 16, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Les instructions, les ordonnances et les rituels pour la fête des expiations sont devenus essentiels après l'incident qui a causé la mort de Nadab et Abihu. Dieu les avait fait mourir après qu'ils eurent pénétré dans le lieu très saint. La fête des expiations expliquait la mort soudaine des deux hommes. La sainteté infinie de Dieu et la nature pécheresse de l'homme sont évidentes dans cette cérémonie. Chers amis, il y a un grand gouffre entre Dieu et l'homme, et il n'est pas rempli. Cependant, un pont fut construit au-dessus du gouffre. Aujourd'hui, Dieu vous invite à venir à lui, mais vous devez emprunter le seul chemin qu'il a désigné. Lorsque vous venez à Dieu, vous pouvez le faire avec assurance. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Nous avons une invitation à nous approcher de Dieu, à venir à lui. Cependant, nous devons emprunter le chemin désigné, et lorsque nous le faisons, nous pouvons nous présenter à lui avec assurance. Tout ceci fut fait parce que les fils d'Aaron avaient pénétré dans le lieu très saint. Dieu dit à Israël qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Mais aujourd'hui, c'est différent. En tout temps et en tout lieu, nous pouvons venir en présence de Dieu, mais seulement si nous passons par Christ. En fait, je pense que certaines personnes pêchent lorsqu'elles prient. Un pasteur ou un ministre qui rejette Christ, qui ne croit pas en sa divinité et son œuvre rédemptrice, et qui adresse des prières publiques à Dieu, ne vient pas à Dieu selon la méthode prescrite par celui-ci. Il faut venir à Dieu en passant par Christ, uniquement par Christ. Dieu n'accepte pas que l'on s'approche de lui par un autre chemin. Les bonnes œuvres, être une bonne personne, être dans la bonne religion, etc. Lorsque nous empruntons un autre chemin que Christ, nous faisons comme Nadab et Abihu. Nous connaissons tous la réaction de Dieu. Lévitique 16, versets 3 et 4. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin, et ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Cette fête avait une caractéristique unique. Seul le souverain sacrificateur pouvait accomplir le rituel. Personne ne l'aidait. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Verset 17. le souverain sacrificateur devait faire tout lui-même, de la plus petite à la plus grande tâche importante. Tous les autres prêtres devaient se retirer du tabernacle. Seulement, le souverain sacrificateur pénétrait dans le tabernacle, car l'œuvre d'expiation était sa responsabilité. Nous devons retenir ce détail, car il fait partie du portrait de Christ que dépeint ce texte. Seul Christ porta les péchés du monde à la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Le psaume 22. Christ était rejeté à la fois de Dieu et des hommes lorsqu'il porta nos péchés à la croix, lorsqu'il fut fait péché pour nous. Cependant, lui et le Père étaient en accord en ce qui concerne le plan du salut. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean chapitre 16, verset 32. C'est un grand mystère. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Oui, chers amis, le souverain sacrificateur enlevait les éléments de ses vêtements qui reflétaient la gloire et la beauté de Christ. Il ne portait que les vêtements de fin lin que portaient tous les autres prêtres. Sans être, il devait être sans ornement, mais pur. Ceci est une belle image de Christ, notre souverain sacrificateur, qui a laissé sa gloire céleste pour prendre notre nature humaine afin de mourir sur la croix. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, versets 1, 14 et 18. Notre Seigneur n'a pas délaissé sa nature divine, mais seulement sa gloire divine, lorsqu'il s'est incarné pour venir sur terre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ces quatre premiers versets du chapitre 16 du Lévitique nous montre que nous devons approcher Dieu avec crainte et révérence. Dieu n'est pas notre chum ou notre copain, même s'il nous aime au point d'avoir donné son Fils. Dieu n'est pas là pour que nous nous en servions pour notre gloire personnelle, en pratiquant une religion qui attire les applaudissements des hommes, comme le faisaient les pharisiens. Dieu ne forme pas une église afin que nous y obtenions un poste pour notre avantage personnel ou pour répondre à nos besoins personnels. C'est avec crainte et révérence que nous devons nous approcher de Dieu, que ce soit à titre d'enfant de Dieu ou à titre d'ouvrier dans l'œuvre. Mon ami, tu ne peux rien faire pour te mériter une place au ciel avec Dieu, car seul Jésus n'a jamais péché. Il peut, si tu veux, défendre ta cause devant Dieu le juste juge. Jésus gagne toujours ses causes. Veux-tu faire appel à ses services? Prochaine émission, Lévitique chapitre 16, verset 5 jusqu'à la fin.
Oh, merci Régent. Je suis donc heureuse que Dieu m'ait placée sur cette terre au temps de la grâce, c'est-à-dire après que Jésus soit venu mourir sur la croix pour payer la dette de mon péché. Merci Seigneur. Dans mes premiers jours en tant qu'enfant de Dieu, j'ai appris rapidement à refuser les pensées qui ne venaient pas de Dieu, ces pensées charnelles qui font la guerre à l'âme de tout croyant. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. Dès que j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie, je réalisais que je devais laisser l'homme marié que j'aimais. Mais on devait encore travailler ensemble. Il me semble qu'il était encore plus gentil avec moi que jamais. J'aurais pu succomber facilement dans le péché avec lui. Mais dès qu'une pensée venait à mon esprit, je priais au nom du Seigneur Jésus, sachant que Dieu me délivrerait du mal, et il le faisait. J'en étais émerveillée. Dans l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui concernant la fête des expiations, on a pu voir l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Lors de cette fête, Dieu n'ôtait pas les péchés des gens, il les couvrait jusqu'à ce que Christ vienne les ôter. Et il y a 2000 ans, Christ est venu ôter mon péché. Il est venu ôter ton péché. Voilà pourquoi j'ai mentionné qu'on pouvait voir à quel point Dieu nous a aimés. Je sais que plusieurs parmi vous connaissez ce fameux verset de l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. J'aimerais vous inviter à le réciter avec moi, en pesant réellement sur chaque mot. Allons-y. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est de l'amour. Mon ami, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour payer en entier la dette de ton péché? Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te pardonner une fois pour toutes. Il veut effacer, oublier tous les péchés que tu as commis dans ta vie et tous ceux que tu pourrais commettre dans les jours à venir. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut que tu te couches le soir avec la paix dans ton cœur, sachant que tu es un enfant de Dieu et que bientôt tu seras dans sa présence, dans la joie, pour l'éternité. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 13, il est écrit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Crois-tu au nom du Fils de Dieu? Crois-tu en Jésus? Eh bien, viens à lui aujourd'hui. Si Dieu te révèle, comme il l'a révélé à l'apôtre Paul, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu seras sauvé. Christ signifie « Dieu est salut ». Jésus signifie « sauveur ». Laisse le Christ te sauver, te donner la vie éternelle maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Prends ce cadeau que Dieu t'offre gratuitement. Dieu veut te justifier par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Ce moyen, c'est Jésus. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Viens à Jésus.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction,
parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.